16e épisode. Une piste passionnante. Chapitre 1er. Un sauvetage. En apprenant grâce à un message de TSF qu'un paquebot chargé de passagers était en train de brûler, le capitaine et propriétaire du yacht, le Desdemona, avait aussitôt fait route à toute vapeur vers le bâtiment sinistré. Le yacht, à l'aide de ses puissantes machines, dont les mécaniciens tiraient le rendement le plus élevé possible, se rapprochait du théâtre de la catastrophe avec une rapidité, pour ainsi dire, foudroyante. Une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'on se trouvait en vue du paquebot, immobile au clair de lune sur la mer parfaitement calme, pendant que de ses flancs s'élançaient des flammes d'un rouge sombre et des torrents de fumée noire. Pendant que l'équipage du Desdemona mettait à la mer un canot à vapeur chargé d'une pompe électrique de grande puissance, Todd Marvel, Miss Elsie et le Canadien Floridor examinaient avec émotion le spectacle terrible qu'offrait le pont du paquebot. Des silhouettes noires se démenaient au milieu des flammes et en guise de sirène on entendait les beuglements de deux trompes d'automobile, d'un trombone et d'une grosse caisse qui produisaient la plus étrange impression. C'étaient quelques-uns des musiciens du jazz band qui continuaient héroïquement à faire tapage en dépit de la fumée qui les asphyxiait, n'ayant pas trouvé de meilleur moyen d'appeler au secours que celui-là. « Voilà qui est curieux !» s'écria tout à coup Todd Marvel. « Je ne vois que des noirs !»« Ils doivent être devenus fous de peur !» fit observer Miss Elsie. « Écoutez quel horrible tapage !»« Des noirs ?» murmura brusquement Floridor en se frappant le front. « Le navire est certainement le Booker Washington, et cela m'explique bien des choses !»« Que veux-tu dire ?» Avez-vous donc oublié que c'est à bord de ce navire que l'inspecteur Herbert a fait embarquer pour nous débarrasser de lui, ce rusé de coquin qui se nomme Petit Dad? Je n'avais pas songé à cela, murmura le milliardaire. Il est fort probable que c'est Petit Dad qui a mis le feu au paquebot. Mais dans quel but? Demanda la jeune fille. C'est un drôle tellement astucieux qu'il a dû combiner tout un plan pour ne pas être emmené en Afrique et sans doute pour nous rejoindre. Je ne serais pas surpris le moins du monde que ce soit lui qui, sachant que nous nous trouvions à proximité, ait manœuvré l'appareil de TSF après avoir mis le feu. « L'en est bien capable !» grommela le Canadien. « On ne peut cependant pas laisser griller vif tous ces noirs. Mais il faut donner les ordres les plus stricts pour que Dad ne puisse s'introduire à bord du Desdemona. » Floridor se hâta d'aller prévenir le capitaine, pendant que Todd Marvel, qui suivait avec la plus grande attention les progrès du fléau, se tenait prêt à payer de sa personne si cela devenait nécessaire. Cependant, les pompes électriques avaient commencé à lancer des torrents d'eau sur le pont et dans les agrès du Booker Washington. Ce secours inespéré rendit courage aux passagers qui essayaient déjà de mettre à la mer les chaloupes du bord. Ils cessèrent de pousser des cris et se mirent à manœuvrer courageusement les pompes du paquebot. D'autres avaient découvert un dépôt de ces grenades extinctives qui sont souvent employées dans les incendies. Ils en projetaient dans tous les endroits menacés. À la grande surprise des passagers du yacht, l'incendie du paquebot, qui de loin à cause des tourbillons de fumée paraissait considérable, se trouva éteint avec une rapidité tout à fait déconcertante. Il y avait à cela une raison que l'on finit par connaître, mais beaucoup plus tard. En mettant le feu, Dad, toujours prudent, s'était bien gardé de disposer ses foyers d'incendie dans les endroits qui auraient pu trop rapidement amener un embrasement général. Les chiffons huilés et le goudron qu'il avait employé était destiné bien plutôt à fournir en abondance une fumée épaisse et nauséabonde que des aliments trop rapides à la flamme. Quand les noirs et leurs danseuses, trempés jusqu'aux os par l'eau des pompes, après avoir été roussis par la fumée, reprirent un peu de sang-froid, ils constatèrent avec joie qu'ils avaient eu plus de peur que de mal. Quelques cloisons, des aménagements extérieurs, enfin la tente et les portières de velours qui décoraient le pont transformé en salle de danse, avaient été brûlées. Mais le Booker Washington n'avait pas été atteint dans ses œuvres vives. Sa coque d'acier, ses machines, la plupart des cabines étaient intactes. Après les terreurs folles qu'ils venaient d'éprouver, les Noirs s'abandonnèrent à une joie inconsidérée. Peu s'en fallut qu'ils ne se remissent à danser pour célébrer leur sauvetage. Mais les plus âgés et les plus sérieux, qui tremblaient encore en songeant à la responsabilité qu'ils avaient encourue, décidèrent que chacun se retirerait dans sa cabine pour réparer le désordre de sa toilette, puis qu'on ferait l'appel pour voir si la noyade ou l'asphyxie n'avait pas fait de victimes au cours du sinistre. Pendant ce temps, une délégation des personnages les plus notoires se rendrait à bord du Desdemona pour remercier Todd Marvel au nom de la Société des Bons Noirs et en même temps pour offrir, suivant l'usage, une importante gratification à l'équipage du yacht. Quant à l'auteur responsable du sinistre, il avait passé pendant ces trois quarts d'heure par toutes sortes d'émotions. Tapi dans un coin sombre, le plus loin possible du feu, il regardait son œuvre avec orgueil. Mais quand les premières cloisons commencèrent à brûler, il cessa de sourire. Il ne se serait jamais imaginé qu'un incendie prenait si vite, et il se demanda anxieusement si le yacht aurait le temps d'arriver avant que le fléau eût consommé son œuvre destructive. Plus il réfléchissait, moins sa position lui semblait sûre. « N'est certainement pas par une simple erreur que la caisse qui me sert de logis a été embarquée sur le Booker Washington. Todd Marvel doit être avisé de ma présence. Il va me faire chercher, puis qui sait s'il ne devinera pas mes projets. » Un tourbillon d'âcre fumée lui arriva en ce moment en plein visage et le fit éternuer. « Ce qui serait encore moins drôle, grommela-t-il, c'est si tous les moricots et moi-même avions fini de griller quand le milliardaire arrivera. » Dad en était là de ses pénibles réflexions, quand le Desdemona, filant comme un nuage à la surface des eaux, apparut tout fanaux allumés, ses projecteurs électriques fouillant l'horizon, comme s'il eût jailli instantanément du fond des ténèbres. Il avançait si rapidement que sa coque et ses agrès devenaient de minute en minute plus visibles dans tous leurs détails. Ce spectacle consolant rendit à Dad toute sa belle humeur et toute son audace. Il prit ses dispositions pour se jeter à la mer à la faveur du désordre et pour gagner le yacht avant que personne n'eût songé à s'occuper de lui. Il se rappela alors qu'il avait laissé dans sa caisse divers objets qui lui étaient indispensables pour accomplir ce qu'il avait projeté une fois à bord du yacht. Il redescendit vers les profondeurs de la cale où il eut la chance de trouver une voie qui n'était pas rendue impraticable par la fumée. Cette anomalie s'expliquait par le fait que, dès qu'on s'était aperçu de l'incendie, quelques noirs avaient eu la bonne idée de fermer les portes des cloisons étanches. Mais en passant en face de la cabine de Miss Virginia, ses idées prirent une autre direction. Il gardait rancune à la jeune fille de la façon dont elle l'avait éconduit, après lui avoir montré d'abord tant d'amabilité. « Quelle sotte petite négresse !» murmura-t-il. Puis sa curiosité s'étant réveillée. « Que fait-elle ? » se demanda-t-il. « Elle doit être encore chez elle ? » Elle avait bu hier si confortablement que je serais bien étonnée si elle ne ronflait pas encore à point fermé. Sans plus de cérémonie, Dad crocheta la serrure avec un de ses outils et entra tranquillement. Miss Virginia, plongée dans un sommeil profond comme celui de la mort, ne fit pas un mouvement. Toujours vêtue de sa blouse orange et de sa jupe vert tendre, elle souriait de toutes ses dents blanches, sans doute à quelque rêve d'amour. Dad la contempla quelque temps en silence. Puis sa physionomie rusée s'éclaira d'un sourire qui le rendait encore plus laid, et ses petits yeux jaunes pétillèrent de malice. « Virginia !» murmura-t-il avec un geste théâtral, mais sans cependant élever la voix. « Tu m'as trahi, mais ta punition sera terrible. Tu n'iras pas à Monrovia avec les autres moricots. Tu seras désormais attaché à ma destinée mystérieuse. » Dad regarda avec précaution par la porte entrebâillée si le couloir était vide, et ne voyant personne, rentra dans la chambre. « Voilà, murmura-t-il, une belle occasion de faire usage de mon chloroforme. » Et il tira de sa poche un petit flacon qu'il déboucha et le tint pendant quelques secondes sous les narines de la jeune fille. « Maintenant, fit-il, elle en a pour 2 ou 3 heures. On pourrait la couper en petits morceaux qu'elle ne bougerait pas. » Avec une vigueur dont on ne l'eût guère cru capable, Dad chargea la pauvre Virginia sur ses épaules et disparut avec son fardeau dans les profondeurs de la cale. Un quart d'heure plus tard, il reparaissait seul sur le pont et il y arrivait au moment où le bateau-pompe y déversait de véritables trompes d'eau. « Voilà l'instant » songea-t-il. « Il ne faut pas attendre que le feu soit complètement éteint !» Se laissant glisser le long d'une manœuvre, il atteignit la calme surface de l'océan et se mit à faire le tour du paquebot en nageant, évitant avec grand soin les endroits éclairés. Après avoir décrit un circuit assez vaste, Dad se trouva derrière le Desdemona. Personne ne regardait de son côté. L'attention des quelques hommes demeurés à bord était tout entière dirigée vers le paquebot dont les derniers tisons s'éteignaient en sifflant dans des tourbillons de vapeur. Cependant, le jeune bandit ne se hasarda pas à monter sur le pont. Il jugea qu'il agirait d'une façon plus avisée en se glissant par un des hublots qui tenaient lieu de fenêtres aux cabines. Sa taille mince lui permettait de passer assez aisément par l'étroite ouverture. Il se hissa donc, en faisant le moins de bruit possible, jusqu'à l'un des hublots et s'introduisit sans autre aventure dans une pièce qui lui parut assez vaste. Après une seconde d'hésitation, il se hasarda à se servir de la lampe de poche et il constata avec satisfaction qu'il se trouvait dans une cabine vide. Les tiroirs des meubles étaient ouverts et sur la couchette, plus vaste et plus luxueuse que celle des paquebots, il n'y avait qu'un matelas et deux oreillers, mais sans drap ni couverture. Évidemment, la cabine était inhabitée, ce qui causa à Dad une réelle satisfaction. Et il se rappela alors que le Desdemona, construit pour porter des centaines de passagers, devait renfermer beaucoup de locaux inoccupés comme celui où il se trouvait et où sa bonne chance l'avait conduit. Autour de lui régnait le silence le plus profond. « Je suis en sûreté, du moins pour le moment, » se disait-il. « Me voilà dans la place. Maintenant, il faut que je ne sois guère malin pour ne pas accomplir avec succès la mission qui m'a été confiée, en donnant par la même occasion une petite leçon au fameux détective milliardaire. » Tout en se livrant à ses idées orgueilleuses, Dad s'aperçut qu'il était trempé des pieds à la tête. Il s'épongea de son mieux, essuyant ensuite soigneusement avec une poignée de laine tirée du matelas les traces humides qu'il avait laissées sur le parquet. Puis, très fatigué par cette nuit d'émotions et d'acrobaties de tout genre, il se consulta pour se demander s'il serait prudent de se laisser aller au sommeil dans cette superbe cabine qui semblait abandonnée. « Bah !» conclut-il après une minute de réflexion. « Qui aura l'idée de venir me chercher là? J'ai besoin de repos, et comme dit un proverbe, demain il fera jour. » Mu par un dernier scrupule de prudence, il prit cependant la peine d'étudier la serrure de la porte et il essaya de l'ouvrir avec un de ses outils. Mais il constata avec désappointement qu'elle était fermée extérieurement par un solide cadenas. « Tant pis, » murmura-t-il, « je vais me coucher. J'ai besoin de réparer mes forces pour tout ce qui me reste à accomplir demain. » Il se glissa précautionneusement entre la cloison et le matelas, et bien que ses vêtements fussent loin d'être secs, il ferma les yeux presque aussitôt et s'endormit. En même temps, il lui sembla que la vitesse du yacht augmentait et qu'il était emporté vers l'inconnu avec une rapidité dont aucun paquebot n'avait pu jusqu'ici lui donner l'idée. Combien de temps demeura-t-il plongé dans ce sommeil plein de charme? Il ne put jamais s'en rendre compte exactement. Il fut soudainement arraché aux délices d'un sommeil bien gagné par les fatigantes aventures de la journée précédente, par le bruit d'une clé que l'on introduisait dans la serrure du cadenas. Petit Dad avait l'oreille très fine. Ce bruit si léger suffit à le réveiller complètement et à lui rendre conscience en quelques secondes de tout le péril de sa situation. « Ils me cherchent !» se dit-il. « Ils doivent savoir que j'ai trouvé moyen de gagner le Desdemona. Je n'ai que le temps de me débiner. Comment vais-je faire ?» Petit Dad regardait autour de lui d'un air désespéré et ne découvrit aucune cachette, aucune issue. Pendant ce temps-là, la clé continuait à grincer dans la serrure du cadenas. « Elle a l'air d'être sérieusement rouillée, cette serrure » murmura-t-il. « Ce doit être l'air de la mer. » Il venait de cesser d'entendre le grincement de la clé. De deux choses une. Ou les ennemis de Dad étaient en train de verser de l'huile dans la serrure récalcitrante, ou ils allaient enfoncer la porte. Il n'attendit pas la conclusion de ce dilemme. Et puisque toute autre voie de salut lui était fermée, il se précipita éperdument par le hublot qui lui avait donné accès, puis s'accrochant des deux mains à la moulure extérieure, il demeura là, collé contre les flancs du yacht, s'en remettant à sa bonne chance. Toute cette scène n'avait duré que quelques secondes. Dad venait à peine de franchir l'étroite ouverture que la porte s'ouvrait en grinçant. Il reconnut parfaitement la voix de son ancien patron, le banquier Robinson, et celle du Canadien Floridor et de Todd Marvel. « Il n'y a personne là !» déclara le Canadien. « Vous avez vu quel mal j'ai eu à ouvrir la porte ?»« Je suis de votre avis, » répliqua le milliardaire, « mais jetons tout de même un coup d'œil. » « Tiens, » fit le banquier, « on dirait que le parquet a été mouillé. » « Cela ne prouve rien, » répliqua Floridor, qui tenait à son opinion. Une vague a dû jeter un paquet de mer par le hublot. Ça arrive souvent.
C'est possible, après tout, murmura le milliardaire.
Je crois comme Floridor que nous n'avons rien à chercher ici.
L'instant d'après, Dad entendit la porte se refermer. Il poussa un profond soupir de soulagement, car dans la gênante position où il se trouvait, ses doigts commençaient à s'engourdir, et il entrevoyait le moment où il allait être obligé de lâcher prise. Ce fut avec un ouf de satisfaction qu'il réintégra l'intérieur de la cabine, où cette fois, sûr de n'être plus dérangé, il s'endormit à point fermé.
Chapitre 2. Autre surprise. Après le sauvetage du Booker Washington, Tom Marvel, malgré le peu d'enthousiasme qu'il éprouvait pour ce genre de cérémonie, fut obligé de donner audience aux trois membres de la délégation noire qui tenaient à lui adresser des remerciements solennels. Ces trois personnages, dont l'un était médecin, le second avocat et le troisième professeur, étaient en réalité les véritables chefs de la colonie qui allait s'installer à Monrovia. Tous trois étaient fort honnêtes et très instruits, mais c'étaient des bavards intarissables. La peur qu'ils avaient eue, se joignant à la gratitude réelle qu'ils éprouvaient pour le milliardaire, stimulait encore leur faconde habituelle. Dans un style pompeux mais pourtant naïf, ils expliquèrent que lorsque le Booker Washington avait quitté New York, il y avait eu une formidable explosion de joie et d'enthousiasme parmi cette belle jeunesse noire qui, pareille aux Hébreux chassés d'Égypte, regagnait l'Afrique, la terre natale, pour y fonder une nouvelle patrie. Il n'eût pas fallu essayer de les empêcher d'organiser une fête. « Et vous savez, » conclut l'avocat avec un sourire d'orgueil, « combien notre race est sensible au plaisir de la musique et de la danse. Combien elle est sentimentale et impressionnable. Aussi, cette fête qui avait commencé d'une façon très calme a-t-elle un peu dépassé les limites de la sagesse ?»«
C'était une vraie bacchanale, » murmura le médecin.
« Il faut bien que la jeunesse s'amuse, » déclara Todd Marvel, qui se mourait d'envie de rire.
« Enfin, » reprit l'avocat avec son sourire indulgent, « tous nos jeunes gens ont un peu fait les fous. Pas de mal à ça. »«
Il n'y a pas eu d'accident de personne ?» demanda Miss Elsie, gagnée à son tour par un rire irrésistible.
Les trois délégués noirs échangèrent un regard où se peignait la consternation et ne répondirent pas tout d'abord.
« Hélas, » dit enfin le docteur, il est arrivé un malheur, qu'il vaudrait peut-être mieux cacher. Quand l'appel a été terminé, on a constaté avec chagrin qu'une de nos plus brillantes élèves, Miss Virginia, une jeune fille qui attendait le plus bel avenir, avait disparu. On a craint qu'affolée par la vue des flammes, elle ne se soit précipitée dans la mer.
Et cependant, objecta l'avocat, je ne m'explique pas cela. De même que toutes nos bachelières, Miss Virginia, nourrie dans la pratique des sports, nageait comme un poisson.
« Comme une sirène, monsieur, » rectifia le professeur, choqué par une comparaison aussi vulgaire.
Et il continua. « Pauvre Virginia, comme le héros du poète latin, elle est tombée expirante avant de toucher le rivage natal. »
Todd Marvel eut grand-peine à imposer silence au professeur, qui ne demandait qu'à faire l'oraison funèbre de Virginia en l'entremêlant d'une foule de citations classiques. « Vous ne connaissez encore pas, » interrompit tout à coup le milliardaire, les causes du sinistre? Je suppose qu'il est purement accidentel.
Les trois délégués noirs secouèrent la tête avec tristesse.
Quoi qu'il nous en coûte de le dire, fit le docteur en baissant la voix, il est presque certain que l'incendie est dû à la malveillance.
Notre première enquête a établi les faits d'une façon indéniable. Cela n'a rien de surprenant d'ailleurs. L'œuvre de la régénération des noirs, cette magnifique tentative jusqu'ici couronnée de tant de succès, avait excité bien des jalousies et suscité bien des haines. Nous sommes certains qu'un blanc, un agent de nos ennemis, avait réussi à se cacher à bord au moment du départ, et que c'est lui qui a mis le feu.
« Comment savez-vous cela ?» demanda précipitamment Todd Marvel.
« Quand nous avons quitté le port de New York, il n'y avait pas un seul blanc à bord. Et cependant, des passagers et des matelots ont aperçu à diverses reprises un jeune homme de race blanche, de physionomie très laide, qui errait dans les couloirs du paquebot, comme quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille. À la vue d'un groupe de danseurs, il a pris la fuite, et malgré toutes nos recherches, il a été impossible de le retrouver.
Todd Marvel réfléchissait.
« Avez-vous bien cherché ? » demanda-t-il avec insistance. « Le navire a été fouillé de haut en bas, et, en ce moment même, Les perquisitions continuent avec l'aide d'un de vos amis, Monsieur Floridor, qui a bien voulu se mettre à notre disposition. Du moment que Floridor est avec vous, l'incendiaire sera capturé, je vous en réponds. Mon secrétaire et ami est un des détectives les plus sagaces qui existent. »
Après une foule de compliments réciproques, Todd Marvel fit apporter quelques bouteilles d'un champagne très sec, et les trois délégués, malgré la réserve diplomatique à laquelle ils étaient tenus, ne purent réprimer un large sourire à la vue du plateau qui supportait les coupes et les flacons casqués d'or. La conversation devint beaucoup plus bruyante et beaucoup moins cérémonieuse qu'au début. Tous étaient unanimes pour attribuer la tentative dont ils venaient d'être victimes à la célèbre société secrète qui, dans le sud des États-Unis, s'est déclarée ennemie des Noirs et qui s'intitule le Ku Klux Klan, ou les Knights Knights, chevaliers de la nuit. Cette conversation fut tout à coup interrompue par un choc formidable, et presque aussitôt, Floridor entra en coup de vent dans le salon du yacht.
« Que se passe-t-il donc ?» demanda le millionnaire.
« Rien de grave, » répondit le Canadien. « Au cours de nos perquisitions, nous avons découvert dans la cale une grande caisse qui vous est adressée, et qui doit renfermer un piano. »
« Tu es bien sûr que c'est à moi ?
Il n'y a pas d'erreur possible. Elle porte votre nom, estampé au fer rouge dans le bois, et celui de l'agence de déménagement vous employez. C'est un piano à queue. »
« En effet, » murmura le milliardaire, devinant les intentions du Canadien. « Il me manquait un piano qui a dû être égaré. »
Le capitaine a insisté pour que ce colis, qui est de votre propriété, soit immédiatement transporté à bord du Desdemona. On l'a hissé à l'aide de palans, et c'est le bruit qu'on a fait en descendant sur le pont que vous venez d'entendre. D'ailleurs, on n'a trouvé aucune trace de l'incendiaire. Et je peux après tout qu'il ait été une des premières victimes du sinistre qu'il avait provoqué.
Alors, tout est pour le mieux.
De nouvelles congratulations et de nouveaux toasts furent encore échangés et les trois délégués, charmés de l'accueil qui leur avait été fait, se décidèrent à regagner le paquebot. Ils avaient à peine pris place dans leur canot que le Desdemona virait de bord et forçait de vitesse pour rattraper le temps perdu. Miss Elsie et M. Rabington, très fatigués tous les deux, avaient regagné leur cabine. Todd Marvel et Floridor se trouvaient seuls sur la plage arrière du yacht.
« Pourquoi diable, demandait le milliardaire, as-tu jugé nécessaire de nous encombrer de cette caisse ?»«
D'abord parce que je n'ai pas pu faire autrement en voyant votre nom sur l'adresse. Les Noirs ont déclaré qu'il fallait absolument que vous rentriez dans votre bien. » »«
N'ont rien voulu entendre. Peut-être aussi qu'ils ont craint d'avoir payé les frais de retour du piano de Monrovia à Paris. » Ce qui doit coûter cher. Enfin, je suis persuadée que Dad est encore caché dans la boîte.
Ça ne me paraît pas très vraisemblable.
J'en suis pourtant certain. On l'a trouvé dans aucun coin de Booker, Washington. Faut bien qu'il soit quelque part. Je suppose qu'affolé, voyant l'incendie éteint, ces réfugiés-là, ne trouveront pas de meilleur asile.
Es-tu bien sûr qu'il ne soit pas monté à bord du Desdemona? Ce qui ne me plairait guère.
C'est impossible. Comme vous l'aviez ordonné, on a placé des sentinelles qui ont veillé à ce que personne ne s'embarque sous baptismain.
Admettons que tu dises vrai. Ne crois-tu pas qu'il eût été préférable que ce jeune gredin restât avec les Noirs?
Pauvre Jean, voyez déjà tout le mal qu'il leur a causé. Il est malicieux comme le diable.
Pourtant, n'est-ce pas toi qui as eu l'idée de le faire embarquer sur le paquebot?
Ouais, mais j'ai complètement changé d'avis. Je crois qu'il vaut mieux que nous ayons ce drôle sous la main. Maintenant qu'il va être à notre discrétion en plein océan, serons sûrs qu'il ne commettra plus de nouveaux méfaits. Puis il faudra bien qu'il parle. Que ce soit de bonne grâce ou par force, faudra qu'il nous mette au courant de ce qu'il sait des projets du docteur Klaus Christian.
Tu as peut-être raison, murmura le milliardaire, devenu soucieux. Mais je t'avoue qu'après ce que tu viens de me dire, je meurs d'envie d'ouvrir la caisse tout de suite.
Faut pas attendre, sinon Onda trouverait encore le moyen de nous jouer quelques mauvais tours.
Alors, finissons-en le plus vite possible. Car je ne serais pas fâché d'aller dormir. Ces Noirs nous ont véritablement fait passer une nuit blanche.
Aussitôt, Floridor alla chercher un marteau et un ciseau à froid, et il commença lentement l'opération du déclouage. Armé d'un Browning, Todd Marvel se tenait prêt à mettre en joue le malandrin dès qu'il se risquerait à montrer le bout du nez. Mais aussitôt qu'il eut donné trois ou quatre coups de marteau, Floridor obtint un résultat tout à fait inattendu. De l'intérieur de la caisse partirent des cris sauvages, de véritables hurlements. Floridor s'arrêta plein d'hésitation et de surprise.
« Qu'est-ce que cela veut dire ? » grommela-t-il. « Ce n'est pas Adèle qui hurle de cette façon. »«
C'est une voix de femme. »«
Singulière histoire. » Ouvre toujours, dépêche-toi. Nous allons être fixés. » Sans plus se soucier des cris qui redoublaient d'intensité, Floridor continua à déclouer. Quelques coups de marteau lui suffirent à rabattre un des panneaux qui fermait latéralement la caisse. Puis il braqua résolument sa lampe électrique dans les ténèbres de la boîte mystérieuse. Il recula aussitôt avec effarement. Todd Marvel, qui avait regardé à son tour, ne fut pas moins surpris. « Il y a une négresse là-dedans » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que signifie encore cette histoire ? Faut la faire sortir ! Mamselle ! Mamselle !» Et comme ces paroles ne recevaient pas de réponse, et que l'habitante de la caisse, depuis qu'elle avait cessé de crier, se rencoignait dans l'angle le plus éloigné de l'ouverture, « Mamselle !» reprit le Canadien. « Sortez vite ou je referme !» Cette menace eut un effet immédiat. Une jeune fille tout ébouriffée, et dont le chapeau rose était posé tout de travers, se glissa péniblement à quatre pattes hors de sa cachette. Floridor lui tendit galamment la main pour l'aider à se remettre debout. On vit alors une adolescente au teint d'ébène, assez jolie, mais dont la voilette aux vives couleurs, une blouse orangée, une jupe vert pomme et des souliers rouges, paraissait singulièrement fripée. La pauvrette ne criait plus, mais des ruisseaux de larmes s'échappaient de ses yeux et elle paraissait en proie à un sombre désespoir. En se trouvant à bord d'un navire inconnu, entre les mains de deux hommes blancs, elle était devenue subitement à moitié folle de pleurs. « Grâce ! Grâce ! » s'écria-t-elle en se jetant aux genoux du Canadien. « Je suis Virginia, diplômée de l'école normale de Tuskegee. »«
Ce moment où vous êtes diplômée !»
déclara Floridor d'un ton jovial très rassurant. « Je vous fais grâce de la vie, à condition que vous me répondiez sincèrement à mes questions. »
« Oui, sir, » balbutia-t-elle, plus morte que vive.
« Comment vous êtes-vous introduite à bord du navire ?» C'en était trop. En entendant porter contre elle cette incroyable accusation, la petite négresse, déjà terrorisée, complètement démoralisée par les étranges événements qui venaient d'avoir lieu, ferma les yeux et s'évanouit. Floridor n'eut que le temps de la recevoir dans ses bras. Chapitre 3. Les embarras de petit Dad. Lorsque Dad, après un de ses profonds sommeils, qui sont un véritable bienfait pour l'organisme, ouvrit les yeux à la lumière, il faisait grand jour. Le soleil était déjà très haut sur l'horizon, et la brise marine qui pénétrait par le hublot resté ouvert répandait dans la cabine une fraîcheur délicieuse. Dad se frotta les yeux, bâilla et s'étira comme un chat troublé dans son repos. Il regarda ensuite autour de lui avec ébahissement. Ses idées n'étaient pas encore très nettes. Il se croyait toujours dans sa caisse à piano et il s'étonnait de la trouver si grande. Puis, tout à coup, le souvenir de ce qui s'était passé la veille lui revint en mémoire et il se mit à rire de bon cœur des aventures assez bizarres dans lesquelles il s'était lancé sous l'influence du champagne sec. Puis, assis sur son lit, et malgré le violent mal de tête qu'il ressentait, il essaya de réfléchir sérieusement. « Jusqu'ici, » murmura-t-il en se grattant le bout du nez par un tic qui lui était habituel, « tout va bien. Mais comment les choses vont-elles se passer quand nous arriverons en France ? Puis il y a ces sacrés documents. Je ne vois pas trop comment je pourrais mettre la main dessus. Et Virginia, qu'est-elle devenue ?» Il avait murmuré cette dernière phrase en souriant, mais presque aussitôt ses traits prirent une expression mélancolique. « Pauvre fille, » soupira-t-il, « qu'est-ce qu'ils ont bien pu en faire ? « Vraiment, on dira ce qu'on voudra, mais je n'ai pas agi tout à fait en gentleman. » Une autre constatation vint encore augmenter sa tristesse. Il ressentait d'affreux tiraillements d'estomac, encore aggravés par ses libations de la nuit précédente. Il eût été homme à ronger jusqu'à l'os un jambon de mouton entouré d'une livre ou deux de belles pommes de terre, en l'arrosant de quelques bouteilles d'ail. « T'as l'affaire, » se dit-il. « Je suis plein de ressources quand j'ai bien dîné, mais si on me prend par la famine... » « Je deviens complètement idiot. Je vois d'ici la tête que feraient Todd Marvel et les autres si quand va sonner la cloche du lunch, j'allais tranquillement m'asseoir dans la salle à manger en demandant cérémonieusement à Miss Halsey si elle a passé une bonne nuit. » Le cœur navré, Dad s'approcha du robinet du lavabo et, faute de mieux, absorba une forte prise d'eau douce. Ce rafraîchissement lui procura d'ailleurs un certain soulagement. Il s'occupa ensuite de réparer tant bien que mal le désordre de sa toilette. Un morceau de savon qu'il trouva dans un tiroir lui permit d'effacer complètement les traces de cirage qui le rendaient hideux. Il se trempa ensuite dans l'eau fraîche
et donna quelques soins à son complet qui, imbibé d'eau de mer et à demi séché, était devenu une véritable loque. Enfin, il inspecta ses outils et constata avec plaisir qu'ils étaient en excellent état, à peine un peu tachés de rouille. Il était occupé à ses petits soins d'intérieur lorsque, de l'autre côté de la cloison, il entendit un sanglot déchirant. Dad avait une foule de défauts, mais il avait l'émotion facile. S'il eût vécu au XVIIIe siècle, on l'aurait infailliblement rangé dans la catégorie des âmes sensibles.
« Que sont les sanglots d'une femme ?» murmura-t-il. « Certes, je ne suis pas parfait, mais quand j'entends cela, je me sens le cœur déchiré. Il faut voir de quoi il retourne. »
Il choisit dans sa trousse une excellente vrille et se mit en devoir de percer un trou dans la cloison. 5 minutes plus tard, et grâce au silence qui régnait dans cette partie du yacht, il pouvait entendre tout ce qui se disait dans la cabine voisine. Il eut un tressaillement en reconnaissant à travers ses sanglots la voix de l'inoubliable Virginia. Une autre personne qui parlait avec beaucoup de douceur, Dad supposa que c'était Miss Elsie, essayait de consoler l'infortunée négresse. Dad eut un sourire d'orgueil.
« Eh bien, se dit-il, ce n'était tout de même pas si bête que ça, mon idée de la caisse à piano. Ça a marché épatamment. Ah, si Virginia savait que je suis là, elle en attraperait la colique. »
Tout en s'abandonnant à ses vaniteuses pensées, Dad ne perdait pas un mot de la conversation. Miss Virginia parlait de sa situation perdue, des difficultés qu'elle aurait à regagner Liberia, où peut-être les chefs de la colonie ne voudraient plus d'elle, l'accuseraient de s'être enfuie avec un blanc.
« N'ayez aucune crainte, lui dit Miss Elsie avec bonté. Demain, au point du jour, comme vient de me l'expliquer M. Todd Marvel, le Desdemona passe au large des îles Açores. Le yacht stoppera à peu de distance de la ville de Madère, juste assez de temps pour qu'une embarcation aille vous déposer à terre. »
Cette déclaration, au lieu d'apaiser Virginia, ne fit qu'amener un redoublement de sanglots et de larmes.
« Et moi, qu'est-ce que deviendrai dans un pays inconnu ?»
bégaya la pauvre bachelière, qui, dans son émoi, oubliait toute sa science et se remettait à employer le patois de son enfance.
« Mistress, veux t'abandonner, pauvre petite négresse ? Ah, je vois bien ! Ah, je vois bien !»«
Mais non, mon enfant, répondit Miss Elsie, à la fois apitoyée et amusée. « Je ne veux pas du tout me débarrasser de vous comme vous avez l'air de le croire. Si vous voulez rester avec nous, j'en serais enchantée. » Virginia était décidément difficile à consoler.
« Non, non, s'écria-t-elle, je veux pas rester, je veux aller à Liberia. »
« Le meilleur moyen d'y arriver, dit Miss Elsie avec beaucoup de patience, c'est de faire ce que je vous dis. Vous descendrez à Madère, là il y a un service de bateau, très régulier. Vous prendrez un billet pour Monrovia, où vous serez presque aussitôt arrivé que vos amis du Booker Washington. » Virginia semblait à demi convaincue. Elle essuya ses larmes et resta silencieuse une longue minute.
« Oui, dit-elle enfin sur un ton de reproche, mais pas d'argent pour le passage. »
« Ne vous inquiétez pas de cela. Voici un petit portefeuille qui contient 3 000 $. »«
Pour moi ?» fit Virginia extasiée.
« Oui, c'est pour vous. Il n'y a un peu plus que le prix du passage. Mais vous garderez le reste en souvenir de vos amis du Desdemona. Maintenant, faites un bout de toilette et vous allez venir déjeuner avec nous à la salle à manger du bord. Il faut prendre des forces pour continuer le voyage. » Et elle ajouta d'un ton de reproche.
« Comment ? Vous n'avez pas touché au chocolat ? Aux tartines, aux œufs à la coque que je vous avais fait envoyer. C'est fort mal. »
Pour toute réponse, Virginia, dans un élan de gratitude, se jeta aux genoux de sa bienfaitrice et, dans un geste plein de douceur et d'humilité, lui embrassa la main avec une ferveur passionnée. Dad avait entendu la porte de la cabine se refermer. Le bruit avait cessé.
« Elles sont parties becquetées, » dit-il dans l'affreux argot qu'il employait. « Je ne serais pas fâché d'en faire autant. »
L'idée qu'il y avait de l'autre côté de la cloison un excellent petit déjeuner lui mettait l'eau à la bouche et stimulait son imagination inventive. Il pensa d'abord à sortir par le hublot de sa cabine et à pénétrer dans celle de Virginia de la même manière. Mais cette acrobatie qu'il avait exécutée en pleine nuit et sous l'empire de la surexcitation causée par le champagne lui paraissait imprudente, sinon impossible en plein jour. Il avait heureusement d'excellents outils. Il ne fallait pas, comme disent les Français, cherchait midi à 14 heures. Il tira de sa sacoche 3 bouts de métal, longs chacun comme la main, et un peu plus gros que le pouce. Il les vissa soigneusement les uns au bout des autres. Quand il eut terminé cette opération, il avait en main une superbe pince, de celle que les cambrioleurs appellent pince Monseigneur. et que lui dénommait facétieusement un sucre de pomme. Avec l'extrémité aplatie du levier, il n'eut qu'à donner une légère pesée pour faire sauter le cadenas. Méthodiquement, il démonta son outil, le remit en place, entrebâilla la porte, et après avoir constaté que le couloir était désert, replaça le cadenas de telle sorte qu'à première vue, il paraissait intact. Virginia n'avait pas pris la peine de fermer la porte de sa cabine. Dad entra, et tout d'abord, il engloutit la pile de toast, grillé, beurré et salé à point, qui était déposé sur un plateau de vermeil. On eût dit un loup affamé. Il goba ensuite les œufs qu'il déclara de première fraîcheur et termina par le chocolat qu'il s'assura à lui-même être le meilleur qu'il eût jamais goûté. Après ce lunch, il se sentait un tout autre homme. Sa verve, sa belle humeur et sa philosophie optimiste lui étaient revenues. Il se disposait à regagner sa cabine quand il eut une autre idée.
« Je suis fort bien ici, se dit-il. Pourquoi m'en irais-je? Personne n'aura l'idée d'aller me chercher chez Virginia. Je suis plus en sûreté chez elle que partout ailleurs. »
Cette réflexion faite, il se glissa sous le lit sans crainte de surprise et se mit, comme il disait, à tirer des plans. Chapitre 4. Une escale. Après avoir déjeuné dans la salle à manger du yacht, en compagnie de tous les passagers, Virginia se trouva complètement rassurée. Par quelques prévenances, quelques paroles encourageantes, Miss Elsie avait du premier coup trouvé le moyen d'apprivoiser la petite négresse. Todd Marvel et ses amis eurent grand plaisir à entendre le récit de ses aventures qu'elle accompagnait d'une mimique expressive. Au portrait qu'elle leur en fit, ils reconnurent que, sans aucun doute, c'était à petite aide qu'elle avait eu affaire, et ils ne purent s'empêcher d'admirer l'ingéniosité et la malice du jeune bandit. Floridor seul ne partageait pas la gaieté générale. « Avec tout cela, grommela-t-il, nous ne savons pas encore où il est. Je suis pas tranquille à la pensée qu'il pourrait être installé à bord. »«
C'est impossible, répondit le milliardaire. Les matelots que j'avais placés en sentinelle l'auraient vu. Enfin, nous avons fouillé minutieusement le bâtiment tout entier, et nous n'avons rien trouvé. Si malin qu'il soit, il n'aurait pas pu nous échapper, ou du moins, il aurait laissé quelques traces de son passage. »
Le Canadien n'était qu'à demi convaincu. « Je peux me tromper, » répliqua-t-il en hochant la tête.
« Mais, si vous le permettez, je vais visiter une seconde fois la cale, l'entrepont, les cabines et même le logement de l'équipage. Avec un pareil drôle, on ne saurait être trop prudent. »«
Fais ce qu'il te plaira, » répondit Todd Marvel en riant.
« Mais je crois bien que tu perds ton temps. Et si tu fais quelques découvertes sensationnelles, tu viendras nous le dire. N'y manquerez pas. »
Le Canadien, entêté dans son idée, disparut par un des escaliers qui aboutissait à la cale pour commencer sa ronde. Cette occupation l'absorba pendant une bonne partie de l'après-midi. Consciencieusement, il explora le bâtiment dans ses moindres recoins, sans oublier la chaufferie, les soutes, où se trouvaient les agrès de rechange, et jusqu'au parc situé à l'avant, où étaient enfermés les animaux vivants destinés à la consommation du bord. Un des rares endroits qu'il n'eut pas l'idée de visiter fut, on le devine, la cabine occupée par Miss Virginia. Il ne lui vint pas un seul instant à la pensée que Dad pouvait s'y être caché. Pendant que le Canadien se livrait à ses perquisitions, Virginia s'était assise en compagnie de Miss Elsie, sous une tente dressée à l'arrière, et les deux jeunes filles prenaient plaisir à suivre les évolutions d'une bande de poissons volants que l'on voyait effleurer la crête des lames. Puis ce furent des paquets de grandes algues chargées de fruits étranges et que les marins appellent raisins du tropique. Virginia, dont les inquiétudes s'étaient dissipées, ne s'ennuya pas une minute pendant cet après-midi. Et quand la cloche du bord appela les passagers au dîner, elle fut tout étonnée de voir qu'il était si tard. Après le repas, on fit de la musique, on causa, et il était près d'11 heures quand Virginia, tout émue, dit adieu aux hôtes qu'il avait si aimablement accueillis et qu'elle ne devait plus revoir. D'un tempérament très émotif, la jeune fille se sentait le cœur gros à la pensée de les quitter. Il lui sembla qu'elle ne retrouverait plus jamais dans l'existence des protecteurs pareils à ceux qu'elle allait laisser derrière elle. Elle versa quelques pleurs, et après avoir demandé et obtenu la permission d'embrasser Miss Elsie, elle la quitta en lui promettant solennellement de lui donner souvent de ses nouvelles. « J'enverrai à Miss, promit-elle, de beaux plumages pour ses chapeaux. Il y a à Liberia des aigrettes, des poules de Numidie et toutes sortes de beaux oiseaux. «
Eh bien, c'est cela, » dit Miss Elsie.
Vous m'enverrez des curiosités de votre nouvelle patrie, et cela me fera le plus grand plaisir. » Tout heureuse de la permission qui lui était accordée d'envoyer des cadeaux à sa protectrice d'un jour, Virginia se retira un peu moins triste. En la reconduisant jusqu'à la porte de sa cabine, le Canadien lui répéta une dernière fois les recommandations qu'il lui avait déjà faites. « Mais matin, vers 4 heures, lui dit-il, Desdemona passe au large des îles Açores. Un matelot viendra vous réveiller et une embarcation vous déposera sur les quais de Madère. Surtout, faites bien attention, ne perdez pas les banknotes qui vous serviront à payer votre passage de Madère à Liberia. » « Pas de danger, monsieur Floridor, répliqua Virginia. Je suis très sérieuse. Alors adieu, miss. Je ne vous reverrai sans doute pas, car lorsque vous partirez, personne ne sera levé à bord du yacht. » Virginia serra une dernière fois la main du Canadien et rentra dans sa cabine, dont elle poussa le verrou intérieur. Puis elle tourna le commutateur. Une vive clarté illumina la pièce. Virginia, qui se sentait assez fatiguée, se laissa tomber dans un fauteuil, en poussant un soupir de satisfaction. « Je suis bien contente, » murmura-t-elle à mi-voix. Un atroce ricanement lui répondit. Elle tourna la tête. Dad, son diabolique persécuteur, était debout derrière elle, plus laid que jamais, mais cette fois complètement blanc. Cette apparition avait quelque chose de fantastique et de surnaturel, qui troublait une imagination plus robuste que celle de l'impressionnable Virginia. Elle poussa un petit cri, et tomba évanouie. Bien loin d'aider sa victime à reprendre ses sens, petit Dad profita de son immobilité pour la dépouiller de sa robe, de son corsage et de son manteau, puis il lui lia solidement les pieds et les mains, la bâillonna, lui banda les yeux, et ensuite la fit disparaître sous le lit comme un objet encombrant. Cela fait, Dad revêtit les vêtements de l'infortunée Virginie. Il se noircit le visage et les mains à l'aide d'un flacon de teinture qu'il avait trouvé sur la table de toilette. Puis il se coiffa du chapeau de la jeune fille, ajusta soigneusement la voilette qui devait dissimuler ses traits, et après s'être longuement étudié devant l'armoire à glace, se trouva très satisfait de son déguisement. « Ça pourra marcher, » murmura-t-il. « Le Canadien a dit tout à l'heure que le départ était pour 4 heures. À ce moment-là, il ne fait pas encore très clair, puis les matelots ne connaissant pas Virginia. » Sur cette réflexion, Dad ferma prudemment le commutateur et se jeta sur le lit, sans plus se préoccuper de la pauvre négresse que si elle n'eût jamais existé. Dad fut arraché aux douceurs du sommeil par des coups violents frappés à la porte de la cabine. « Je viens à l'instant » cria-t-il d'une petite voix de fausset, destinée à faire illusion au marin qui venait le chercher. Il donna un dernier coup d'œil à son accoutrement, mit sous son bras un gros paquet enveloppé de papier gris et ouvrit la porte. « Dépêchez-vous, miss, » fit le matelot. « On n'attend plus que vous, et le Desdemona ne doit pas stationner plus d'une demi-heure. » Sitôt qu'il fut remonté sur le pont désert, Dad aperçut en effet la yole, déjà mise à flot, et où se tenaient 4 rameurs. Il prit place à l'arrière de la petite embarcation, qui presque aussitôt s'éloigna du bord, et se dirigea rapidement vers la ville, dont les maisons blanches se dessinaient dans la pénombre. Le temps était couvert. La nuit, quoique assez claire sous cette latitude, ne permettait pas de distinguer nettement les objets. Les rameurs, pressés de déposer à terre leurs passagères pour regagner le yacht au plus vite, n'eurent pas le moindre soupçon de la vérité. Comment eussent-ils pu se douter que cette petite négresse immobile et silencieuse, dans sa jupe verte et sa blouse orangée, n'était pas la véritable Virginia? Ne venait-on pas d'ailleurs de la chercher dans sa cabine? Dad ne se sentait pas de joie, à mesure qu'il voyait se rapprocher les maisons de la ville de Madère, dont les jardins plantés d'orangers, de palmiers et de citronniers exhalaient à une grande distance leur souffle embaumé. Tout de même, songea-t-il, je peux dire que j'ai de la veine. C'est Todd Marvel qui va en faire une tête. Dad s'était trop hâté de se réjouir. Une minute ne s'était pas écoulée qu'une faible détonation se fit entendre du côté du yacht, d'où s'éleva en sifflant une fusée qui alla s'épanouir là-haut, dans les nuages, en une poignée de petites étoiles rouges et vertes. Dans un même geste, les 4 rameurs avaient relevé leurs avirons. « C'est le signal !» déclara le plus âgé. « Il faut retourner au yacht sans perdre une minute. »« Mais non !» dit un autre. « Il faut auparavant que nous ayons déposé la négresse sur le rivage. » À ce moment, une seconde fusée monta vers les nuages. À sa lueur fugitive,
Dad put constater que les gens du Desdemona mettaient à la mer une seconde embarcation. Dad n'en attendit pas davantage. Avant que les rameurs eussent eu le temps de l'en empêcher, il piqua une tête dans la mer en emportant le paquet gris qui semblait avoir pour lui une grande importance. Surprise et désappointés, hésitant sur ce qu'ils avaient à faire, les matelots donnèrent aux fugitifs le temps de prendre une avance de 5 minutes. Quand ils se lancèrent à sa poursuite, il était trop tard. Ils ne réussirent qu'à s'emparer de la robe vert pomme et de la blouse orange dont Dad avait réussi à se débarrasser tant bien que mal. La seconde embarcation dans laquelle se trouvait Floridor arrivait à force de rames. Bientôt elle rejoignit la yole sur le théâtre du drame. Le Canadien était exaspéré.
« Vous l'avez laissé échapper » cria-t-il au matelot. « N'est guère intelligent de votre part. »«
Qui ? La négresse ?»«
Il n'y a pas de négresse, t'as d'idiot. Ce petit Dad, le bandit. »« La vraie négresse, je viens de la trouver ficelée sous son lit, à moitié morte. »« Né, il se moque pas mal de vous. » »« Le voilà là-bas, il vient de prendre terre. Faut le rejoindre à tout prix. » »«
Vous ne savez pas qu'il a dévalisé M. Todd Marvel ?»
Le milliardaire était très aimé de tous ceux qui étaient placés sous ses ordres. Les deux embarcations volèrent à la surface des eaux tranquilles et atteignirent le rivage 10 minutes à peine après Dad.
« Il y aura une forte prime à qui mettra la main dessus !» déclara Floridor.
« Il n'est pas loin, » dit un matelot. « Il vient de tourner le coin de la petite rue là-bas. Il n'y a pas 100 mètres d'avance sur nous. »
Les marins, dont quelques-uns étaient d'excellents coureurs, s'élancèrent à la poursuite du fuyard. Quelques douaniers espagnols se joignirent à eux. De tous côtés, les fenêtres s'ouvraient. Habitants et habitantes apparaissaient aux fenêtres en léger costume. Tout le monde se demandait de quel drame la paisible ville était le théâtre. Bientôt il fit grand jour. Les boutiques commençaient à s'ouvrir, et des groupes nombreux discutaient avec animation sur le seuil des portes ou au centre des carrefours. Mais après 2 heures de poursuites inutiles, douaniers et matelots revinrent bredouilles. Dad avait gagné la campagne, et là, on l'avait perdu de vue. On supposa qu'il avait trouvé un asile dans quelques plantations, et on remit à plus tard de nouvelles recherches. La nuit précédente, Floridor, qui souffrait d'une insomnie, avait eu l'idée de se lever pour veiller lui-même au départ de Virginia. Il était arrivé 10 minutes trop tard, mais en pénétrant dans la cabine de la petite négresse, son attention avait été attirée par des gémissements inarticulés qui semblaient partir de dessous du lit. Il avait découvert Virginia à demi asphyxiée et presque folle de peur, et il l'avait délivrée. Le Canadien avait tout compris.
« C'est moi qui avais raison, » avait-il pensé. « Dad était à bord, et pour qu'il ne fausse ainsi compagnie, c'est qu'il a trouvé moyen de voler quelque chose. »
Après avoir donné quelques soins à Virginia, Floridor, très inquiet, était allé réveiller Todd Marvel. C'est alors qu'ils avaient constaté que le tiroir du bureau où le milliardaire enfermait certains papiers avait été ouvert à l'aide d'une fausse clé, sans doute pendant que les passagers se trouvaient réunis dans la salle à manger. Le tiroir était vide. « Heureusement, » déclara le milliardaire à ses émus, « les documents les plus importants sont en sûreté dans le coffre-fort. Ce qu'on m'a volé n'a qu'une valeur secondaire. Ce sont surtout des lettres, des coupures de journaux et des brochures. Cela m'ennuie pourtant que ces papiers tombent entre les mains du docteur Klaus Christian. » C'est alors que Floridor s'était lancé à la poursuite du voleur. Rien ne fut négligé d'ailleurs pour s'emparer de ce dernier. Des battues furent organisées dans toute la campagne, des primes furent promises, mais tout fut inutile. Dad semblait s'être littéralement évaporé. L'île de Madère est, par excellence, un pays de luxe. Les touristes millionnaires qui trouvent la société trop mêlée dans la Riviera, à Naples ou au Caire, se rendent à Madère. C'est là, dit un romancier anglais, que viennent mourir tous les riches tuberculeux. L'atmosphère de ces îles éternellement couvertes de fleurs et de fruits, et où jamais ne souffle de tempête, possède des propriétés à la fois apaisantes et engourdissantes. Sous ce beau climat, il est très difficile d'être énergique. Le seul fait de respirer, de vivre et de dormir suffit au bonheur. C'est un des rares endroits du monde où il n'y ait pas besoin de travailler. La paresse est à l'ordre du jour. Tout le monde y est naturellement porté à la fainéantise et à l'insouciance, depuis les travailleurs de la terre jusqu'aux domestiques des hôtels. Dans ces fertiles campagnes, où un Yankee eut installé des charrues électriques
des machines perfectionnées pour l'irrigation, le paysan se contente simplement de laisser pousser ses orangers, et la perspective du bénéfice le plus énorme ne le ferait pas renoncer à une heure de sa sieste ou de sa flânerie quotidienne. Les affiches que Todd Marvel avait fait apposer en promettant une prime à qui capturerait Petit Dead excitèrent d'abord vivement l'attention. Elles firent d'abord le sujet de toutes les conversations. On en parla beaucoup, mais personne ne se dérangea. Enfin, le vieil orgueil espagnol était blessé par les prétentions de cet Américain qui, parce qu'il avait des dollars, se figurait que rien ne devait résister à sa volonté. « Eh bien, disaient les gens de l'île en s'abordant, est-ce que vous allez essayer de gagner la prime ?» Généralement, l'interpellé se reculait d'un pas avec un geste indigné. « C'est l'affaire de la police, cela, seigneur !» répondit-il. « Grâce à Dieu, je ne suis pas un mouchard !»« C'est ce que je me suis dit moi-même !» Quant aux policiers de profession, ils ne montraient guère plus de zèle. « C'est une affaire entre Américains, disait-il. Qu'ils se débrouillent ensemble, cela ne nous regarde pas. Ces milliardaires se figurent qu'ils n'ont qu'à parler. Pas moi qui me priverai de ma sieste pour aller au grand soleil donner la chasse à un bandit dont on ne peut recevoir que de mauvais coups. » Petit Dead avait bénéficié de cette inertie générale. Et grâce à son ingéniosité naturelle, il avait eu vite fait de découvrir une retraite à peu près sûre. Il avait remarqué que parmi ces magnifiques villas, dont beaucoup pourraient être appelés des palais, un grand nombre était fermé, leurs propriétaires ne venant passer à Madère que 2 ou 3 mois. Et il s'était dit qu'il ne ferait de tort à personne en s'installant dans une de ces somptueuses demeures momentanément abandonnées. Avec sa sagacité habituelle, il avait choisi une villa tout à fait isolée et située au milieu d'un grand parc. Avec ses fausses clés, il s'y était introduit sans peine et y avait élu domicile. L'église était excellente, la cave bien fournie, et le jardin immense abondait en fruits de toute espèce. Petit Dead passa là 3 semaines tout à fait heureuses. L'arrivée des propriétaires de la villa le força, par malheur, à déguerpir précipitamment. Ils survinrent au milieu de la nuit, en automobile, avec toute une escorte de cuisiniers, de domestiques et de femmes de chambre. Arraché aux douceurs de son premier sommeil, Dad n'eut que le temps de sauter par la fenêtre et de s'enfuir à toutes jambes. Et il se retrouvait maintenant en pleine campagne, obligé de se cacher pendant le jour et de voler sa nourriture dans les jardins, comme aux époques les plus troublées de sa jeunesse. Il déploya d'ailleurs tant de prudence que malgré l'activité dont firent preuve le milliardaire et ses amis, le fugitif échappa à toutes les recherches. Floridor ne décolérait pas. « C'est inimaginable !» s'écria-t-il. « Ces gens-là sont d'une nonchalance dont on ne peut se faire une idée !» Ils sont fainéants comme des couleuvres. Jamais, en effet, sauf dans certaines régions de l'Équateur, répondait Todd Marvel, je ne me suis heurté à une pareille torpeur. On dirait qu'ils n'ont même pas envie de gagner de l'argent. Le milliardaire et son secrétaire passaient une partie de leur journée à visiter les autorités de l'île pour tâcher de stimuler leurs ailes. Partout, ils étaient admirablement reçus. On les accueillait avec le pompeux cérémonial de l'antique politesse castillane. On leur offrait d'excellents cigares, on leur faisait déguster le merveilleux vin que produisent les quelques vignes qui existent encore dans l'île. Enfin, on ne les congédiait jamais sans leur avoir promis, en termes choisis, que l'on ferait l'impossible pour donner satisfaction au noble seigneur. D'ailleurs, personne ne bougeait, et les choses demeuraient toujours au même point. Le temps passait. Dad restait toujours introuvable. Cependant, Todd Marvel ne pouvait prolonger plus longtemps son séjour dans l'île de Madère. Il dut se contenter de laisser une certaine somme à la police locale pour que les départs des navires fussent surveillés d'une façon spéciale. Il espérait bien que le hasard, jusqu'alors si favorable à Petit Dead, finirait un jour par se tourner contre lui. Quant à Virginia, elle se trouvait si malade qu'on dut renoncer à l'envoyer à terre. Il fut décidé qu'elle accompagnerait Miss Elsie jusqu'au Havre, où elle pourrait s'embarquer directement sur un des grands paquebots qui font le service de la côte occidentale d'Afrique. Il semblait qu'une inexorable fatalité s'acharnât à empêcher la pauvre négresse de regagner la patrie de ses ancêtres.